bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. Épisode 190, mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante. Hey, mine de rien, 190, les amis, fidèle au poste, toujours fort au combat.
Les chums, c'est fait pour ça.
Après tant d'années.
Ben oui, c'est, en fait, Pascal, c'est notre nouveau slogan, toujours fort au combat.
C'est ça, c'est le podcast 100% debout.
Effectivement, debout et aussi en visite, parce qu'on visite les festivals, on parcourt la province. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était tout autour d'un panel ou d'une bière ou d'une rencontre ou d'un film à regard.
Oui, absolument.
Regard, fabuleuse édition, encore une fois, sans nécessairement en faire un immense topo, là, mais un peu, ça a été quoi, vous, vos impressions peut-être de cette édition de Regard, parce qu'on a tous été impliqués assez intensément dans le festival. Toi, Pascal, t'animais notamment une table ronde, ben pas une table ronde,
une classe de maître, ouais, c'est ça, une discussion avec Jérémy Comte, toujours un plaisir, tu sais, moi Jérémy, ben c'est ça, c'est un ami, un collègue, puis fait, quand ils m'ont demandé ça, de faire ça avec lui, sous la formule un peu deux cinéastes se parlent, se rencontrent, moi j'aime bien ça, je me plais à penser que peut-être que, ben je veux pas l'expérience de podcast aidant, là, peut-être qu'ils ont pensé à moi un peu aussi à cause de ça, donc hein, pourquoi pas, mais non, moi ça m'a fait très plaisir, puis tu sais, Jérémy... En fait, c'est vraiment une bonne personne à qui tout le bon peut lui arriver. T'sais, j'ai comme pas l'impression. Il y a des gens comme ça que tu pourrais penser que toute cette expérience-là vertigineuse pourrait corrompre. Mais moi, on dirait que j'ai foi là, au fort intérieur de Jérémy. Là, je pense qu'il fait vraiment les films pour les bonnes raisons. Puis, si je ne m'abuse, là, tout notre entretien va être disponible en ligne. Je sais pas quand, puis ça m'étonne qu'il soit pas déjà disponible en ligne, mais je vais vérifier. Là, j'ai peut-être même pas fait mes recherches. Mais dans quel cas, lorsque ce sera disponible, on vous fera un petit lien sur notre page Facebook de Point de vue. Mais c'était un très très bel entretien, mais sinon c'était aussi très cinéphile, vu beaucoup de films, j'ai eu des coups de cœur et voilà, je peux lancer dans mes coups de cœur ou je peux vous lancer la balle, toi Rémi, coup de cœur.
Ben oui, parce que toi Rémi, là, ce qu'il faut savoir là, c'est que toi c'était intense là. Là avec Marc Lamotte de Fantasia, d'ailleurs Rémi qui est nouvellement officiellement le directeur des Fantastic Weekend,
ben, du court-métrage. Ben oui, pis c'est drôle parce que, tu sais, récemment, je recevais des... je pense que ça a été annoncé il y a deux jours, là, en date du podcast, là. Puis je recevais des félicitations, tu sais, sur mon... Mais moi, tu sais, je le sais depuis à peu près un mois, là, tu sais. Fait que là, je recevais des félicitations, mais juste, hey, félicitations. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, j'ai réalisé que c'était la nouvelle était out. Fait que, ben oui, c'est un bel honneur après avoir été proche du festival comme ça pendant des années. Nouveau poste, là, ça change pas grand-chose à mes fonctions, sauf que... C'est un bel honneur. Mais là,
c'est
ça
cool,
se passe bien
Rémi,
sur un CV, je dirais.
C'est
là.
Cool, Rémi, tout ce qui arrive avec Fantasia, parce que tu sais, toi, t'as commencé juste en étant quoi, un fan, là, tu sais, Fantasia, ton histoire avec Fantasia.
Projectionniste, en fait.
C'est ça.
Moi, je travaillais pour la projection à Concordia, puis c'est à travers cette job-là, j'ai fait de la projection pour Fantasia. Ben, en fait, je préparais les bobines, parce qu'à l'époque, c'était encore en pellicule, c'est en 2010-2011.
Ouais, c'est ça, hein?
Ça fait pas longtemps, mais c'est totalement changé là, depuis. Uh-huh. À ce temps, c'est juste du DCP, mais on recevait les bobines, puis moi, je préparais les pellicules 35 mm le matin pour les projections. Donc, il fallait préparer les reels différents, parce que c'était un système de deux projecteurs. Mm. On alternait d'une bobine à une autre. Fait que je préparais ça le matin, puis là, je suis rentré comme dans le festival à travers ça. Puis par après, ben là, j'ai eu des courts-métrages qui ont commencé à être acceptés dans les Fantastic Weekend. Puis là, je veux dire, j'avais ma passe, fait que là, moi, j'en profitais, je voyais 30 films par année. Puis de fil en aiguille, ben je me suis rapproché du festival, puis j'en suis là.
Bon.
Donc, oui, ben là, ce que t'allais dire, Paul, moi puis Marc Lamotte, on se retrouve... comme à regarder du court-métrage, mais enfermé
ben oui,
dans le local
que,
de presse.
Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Regard, donc, tu sais, invite les gens et ont plusieurs hôtels partenaires, mais en fait, toi et Marc Rémy, vous dormez à la vidéothèque.
Quasiment. Mais c'est que Regard, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a tellement de films qui sont soumis, environ 1300 films ou plus, là, qui sont soumis chaque année. Donc, ils laissent des disques durs où on a accès à tout ce qui est refusé aussi. Donc, c'est super intéressant parce qu'on peut trouver des premières internationales qu'on peut ramener dans nos festivals si on n'a pas été pris par un regard. Puis le calibre est tellement fort un regard que plein de films qui sont refusés, que c'est des super bons courts-métrages. Mm-hmm. Fait que finalement, je passe mes journées devant un écran d'ordi comme je le fais à la semaine longue, mais je fais ça à Chicoutimi, à regarder des courts-métrages refusés. Puis, ben, tu sais, un de mes highlights aussi, là, mais c'est Pascal, t'avais noté ça, mais c'est la première fois qu'on était programmés dans le même programme.
Ouais.
Parce que d'habitude, c'est... D'habitude, moi, je fais mes films weird de genre, puis toi, ben, tu fais des films plus, c'est auteur, plus des drames. Puis là, on se rejoint comme au juste milieu là, dans ce programme-là.
Ouais.
Fait que c'était comme... C'était bien cool de partager cette projection-là avec toi. Ben c'était ça, oui. Mes petits highlights.
Ah, Rémi, ben oui, hein?
Oh.
C'est beau, c'est un beau moment. C'est un beau moment partagé dans notre histoire d'amitié et dans notre histoire du podcast. C'est un beau moment. T'as raison de souligner, t'as raison.
Et puis non seulement ça, mais en plus, là, Pascal, en ce moment, ton film est à l'affiche au cinéma Beaubien, fait que ça, c'est cool aussi.
Oui, c'est ça, le court-métrage Blast Beat avec plein écran en salle. Ben oui, tout est dans tout. Là, le film, il joue avant le long métrage New Some Goal d'Éric Morin. J'ai pas pu le voir encore parce qu'on tournait en fin de semaine là, un nouveau court métrage Mystère. C'est pas moi qui réalisais, là, c'est ma copine qui produisait. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que ça nous a quand même bouffé un peu de temps. Puis on n'a pas été autant au cinéma qu'on aurait voulu dans les derniers jours. Mais oui, absolument, avant le nouveau film d'Éric Morin, dont j'entends beaucoup de bien, mais malheureusement, c'est ça. Je pense qu'on est les trois à ne pas encore l'avoir vu. Si je ne m'abuse.
Non, ça, je ne l'ai pas vu.
Je ne l'ai pas vu.
Bon, c'est dommage. Mais peut-être au prochain podcast, parce que moi, ça me ferait très plaisir d'aller le voir. Puis oui, donc Blast Beat, le court-métrage, joue juste avant. Mais moi, en deux coups de cœur, tiens, un international et un québécois. Évidemment, je n'ai pas tout vu. Puis québécois et aussi, il y en avait certains que j'avais vu pré-festival, mais disons, là, je vais parler de découverte de celui que j'ai vu pour la première fois. Moi, j'irais avec Le Prince Valbé de Jean-François Leblanc.
Mm-hmm. Ouais, c'est très cool.
Pis c'est drôle parce que j'en parlais à je sais plus qui après, puis quelqu'un me demandait « Ah, tu sais, je veux voir un film pas trop long, parce qu'il y a beaucoup de courts-métrages plus longs, puis pour X raison, en tout cas, la personne avait du temps pour la vidéothèque pour en voir un court ou je me rappelle plus trop quoi. » Puis j'ai dit « Ah, ben tu peux voir Le Prince Valbé, je pense que ça doit être une dizaine, douzaine de minutes. » Puis là, il me dit, ben non, c'est 19 minutes. Puis c'est pour montrer à quel point ce film-là a
déguisé ça passe vite.
Son running time. C'est hallucinant. Moi, j'étais sûr que j'étais dans une ride, là, comme je disais, là, un genre de 12 minutes, ben tête. Puis non, là. mais ça, je dis ça, c'est un immense compliment. Ben c'est ça, c'est sur un has-been là, qui faisait des courses de 4 roues. Puis là, il sort de prison. Puis là, fait qu'il est passé vraiment de héros à zéro. Puis là, finalement... il veut peut-être replonger dans le monde du 4 roues, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Puis là, c'est ça. Ça part sur cette base-là, mais tu sais, un petit peu un univers redneck, mais en même temps tendre. Tu sais, je pense qu'il est exactement sur la bonne ligne entre j'aime mes personnages, mais je ris un peu d'eux, mais beaucoup plus avec eux que de eux.
Ouais, ouais.
Tu sais, on sent que Jean-François, il aime cet univers-là profondément. Donc, ouais, c'est vraiment son honneur. Ça a été un très, très, très gros coup de cœur pour moi.
C'est très réaliste, c'est très raw, là. Mm-hmm. On sent qu'on est sur place. C'est, il a probablement tourné dans une vraie compétition de 4 roues aussi.
Ouais, ouais.
C'est comme c'est tangible, là. C'est vrai, c'est des vraies tensions. Les personnages naviguent bien là-dedans. Là. Non, tout c'est un de mes coups de cœur, effectivement.
Puis mine de rien, comme certaines trouvailles visuelles, tu sais, comme une course, on a vu ça des milliers de fois au cinéma.
Ouais, ouais, ouais.
Mais là, par notamment l'utilisation d'une GoPro sur le casque de l'acteur. Par certains plans, tu sais, à travers la forêt, il y a comme... Moi, il y a quelques plans qu'on dirait que j'avais jamais vus avant.
Ouais.
Juste ça, c'est quand même, tu sais, ça vaut la peine de le souligner.
Ouais, ouais, j'allais aller là, puis tu sais, une utilisation, conception sonore extrêmement... t'sais, immersive, là, t'sais, je pense que, je veux dire, entre probablement le footage de ces images-là dont tu parles, puis l'habillage final avec tout le son dans sa pleine splendeur sur grand écran, il y avait comme un petit oomph qui est allé chercher. Fait que ouais, non, ça c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Puis peut-être juste rapidement, en un film international, une autre fiction, là, j'ai vu des docs aussi très forts et tout, mais on va quand même se limiter parce qu'on a plein d'autres films à jaser. Mais moi j'ai adoré un film français qui s'appelle Beautiful Loser. Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu, celui-là, de nous trois?
Je l'ai pas vu.
Je pense pas que j'ai vu, non.
OK, ben c'est vraiment super. C'est un film aussi assez long là, pour un court-métrage dans les vingtaines de minutes, mais c'est autour d'un ex... j'allais dire héroïnomane, mais c'est peut-être pas l'héroïne, mais en tout cas, tu sais, un ex-junkie de drogue dure, là, que ça a été sa vie pendant longtemps, là. Je pense que le film fait le cas que ça fait 40 ans, puis le gars, il commence un sevrage extrêmement difficile, puis il essaie de juste reprendre sa vie en main, mais c'est... Donc, c'est pas nécessairement original tant que ça par sa prémisse, mais la performance centrale, elle est à jeter à terre. C'est vraiment tout tout médium confondu, là, une des meilleures performances à l'écran que j'ai vues, mon Dieu, dans la dernière année, au moins, facilement. Puis, tu sais, je me rendais comme pas compte à quel point j'étais dans le film, jusqu'à ce qu'à un certain point dans le film, le personnage fait un mauvais choix, là, je vous y révélerai rien, si jamais vous tombez dessus un jour. Puis, j'étais comme tellement viscéralement, comme un... genre, mais non, fais pas ça, fais pas ça. Tu sais, j'étais dans ma tête, là, j'étais comme... comme un enfant qui voit un film pour la première fois, là, tu sais, comment j'étais de façon pure... comme complètement abandonné au film. Donc, pour toutes ces raisons-là, ouais, ça a été peut-être mon autre gros coup de cœur. Fait que c'est ça, regard en deux films, mais regard, c'est une très belle édition pour moi. Voilà. Mm-hmm.
Oui, puis on sentait aussi que ça venait un peu comme clore toute l'année, en fait, des cours québécois aux Oscars, mm-hmm. toute l'année où il y a eu vraiment une effervescence. Et on sent des changements, tu sais, comme le fait qu'il n'y a pas eu de gala prend ce cours en ce début d'année, mm-hmm. tu sais, c'est quand même... une grosse mutation, mais ça veut. T'sais, moi, j'espère qu'il va revenir, le gala, mm-hmm. Que ce soit sous cette forme-là ou sous une autre. Mais on sent vraiment que t'sais, le milieu du court-métrage, là, ça va bien au Québec, je trouve. Mm-hmm. Et d'ailleurs, justement, ce jeudi, au festival Cours d'un soir,
ouais.
Avec nos potes de Welcome Aboard, c'est la 4e édition, et moi, je vais participer à un panel sur la programmation pour la distribution.
Oh.
C'est jeudi à 13h au bureau de la RRQ.
Okay.
Donc, tous les détails sur coursdunsoir.com, mais j'ai bien hâte de jaser de ça parce que, ouais, je trouve, on dirait qu'à chaque année, je vais à regard en me disant... C'est sûr que ça ne sera pas aussi bon que l'année dernière. Puis à chaque année, je suis comme surpris d'à quel point notre cinéma est fort.
Mm-hmm.
Et bon, c'est sûr qu'il y a un peu l'aspect de nouveauté. Là, on découvre plein de films, fait que forcément, peut-être que je suis plus enthousiaste que de revoir infiniment Fauve et d'autres films.
Ouais.
Mais vraiment, c'est une cuvée exceptionnelle cette année. Puis j'ai aucun doute. Puis déjà, je veux dire, on le voit dans les festivals comme à Berlin, qu'un cours québécois gagne des prix, tout ça. Mais j'ai aucun doute qu'encore cette année, les cours québécois vont bien voyager dans le ouais. monde, incluant certains qui étaient par regard, que je sais qu'ils sont en préparation, tout ça.
Ouais, non, puis t'as qu'à faire une petite transition aussi, possiblement. Je trouve qu'ils ont le doigt sur le piton comme de l'industrie, même s'ils sont, sont au Saguenay, puis c'est sûr que oui, peut-être l'industrie du. Faut pas se leurrer, là, c'est peut-être un peu plus montréalo-centrique, mais malgré ça, puis c'est une force d'ailleurs, là, le fait que c'est au Saguenay, c'est pas là où je m'en vais, mais là où je m'en vais, c'est. Je trouve qu'ils ont le doigt sur le piton de comme qu'est-ce qui est. Actuel. Puis, tu sais, juste pour donner un exemple, tu sais, c'est comme deux des membres du jury, tu sais, Jérémy Combe puis Geneviève Duluth. Tu sais, là, tu vois, au Canadian Screen Awards, c'est comme Geneviève mm-hmm. Duluth gang, tu sais, avec son long Une Colonie, Fauve gang en, bon, un énième prix, mais tu sais, gang au Canadian Screen Awards. Tu sais, je sais pas, je trouve que c'est comme. Ils sont tout le temps là, sont dans la conversation, ils ont le doigt sur le piton, là, comme je disais. Fait que, je sais pas, c'est juste ouais. une autre. Puis j'en profite au passage pour saluer le travail de l'équipe de Geneviève Duluth pour le film Une Colonie. Félicitations aussi pour leur Canadian Screen Awards. Et pour Émilie Dillard, mm-hmm. la comédienne, qui a gagné aussi meilleure actrice au CSC. C'est vraiment super. Bravo pour le film.
En gros, oui. regarde sur le regard, on a le doigt sur le piton.
Oui, doigt sur le piton.
On renverra ça parce que...
Non, c'est ça. Ça se met sur un poster, ça.
Regard, on a le doigt sur le piton. Hé, hey, mais moi, j'ai des coups de cœur aussi. Avant qu'on change de sujet. Je sais pas si tu en allais là, Paul, ou...
Ouais, vas-y.
Mais moi, je veux juste souligner... parce que, tu sais, moi, je regarde juste les cours québécois.
Mm-hmm.
Parce que c'est ça que je programme. Fait que finalement, je finis par regarder juste du québécois, bien centré sur mon nombril.
Mm-hmm.
J'ai beaucoup de coups de cœur, en fait, qui sont dans le catalogue de Spira cette année.
Mm-hmm.
Entre autres, là, on parlait du Prince de Valbé. Il y a Les Sentiers battus aussi, qui est un film de motoneige. Fait qu'après un film de quatre roues, un film de motoneige, il y a une genre de film père-fils qui partent en skidoo avec le jeune de la ville qui n'a aucune envie d'embarquer avec son père dans ce trip-là. Super bien écrit, très drôle. Mais sinon, un film que je veux souligner là, Acadiana, genre de documentaire expérimental à la Baraka un peu, mm-hmm. avec de la musique ultra planante, des shots de manège, des shots de monde qui danse déguisant aux morts. Je sais pas trop, c'est... Non, mais ça a été fait... de ce que je comprends, ça a été fait pendant une édition de Kinomada,
mm-hmm.
qui était... sont allés où? En Nouvelle-Orléans. Puis ils sont tombés sur ce festival-là. Puis c'est un film qui... La réalisation est partagée en trois. Donc, c'est un film de Yannick Nolin, Samuel Matteau et Guillaume Fournier. C'est un film lyrique, hein, donc on se laisse porter par les images. Il n'y a pas trop de réflexion. C'est juste d'entrer dans cette bulle-là, mais c'est vraiment magnifique. Puis ça fonctionne à fond. Une espèce de shot de ciel avec des manèges qui passent à travers. Puis... Je sais pas, là, c'est une belle bulle, là. Puis, puis Guillaume, en fait, il a un bon sens du marketing parce que à chaque fois qu'il y a un film à regard, il amène des gogos pour promouvoir son film. Mmh. Il y a 2 ans, il avait présenté le film 2$. Puis, il y avait comme des petits cartons avec un 2$ en chocolat dessus. Puis, je peux te dire, j'en ai mangé des 2$ en chocolat, puis je m'en souviens de son film. Puis cette année, ben, il a distribué comme des colliers avec des homards en plastique. Puis dans les parties à regard, tout le monde avait ça dans le cou. Fait que, en tout cas, good job. C'est good job pour le film, mais good job pour la promo aussi autour. Wow. C'était super.
Ben oui, puis moi, je vais te rejoindre, en fait, Rémi, parce que effectivement, moi aussi, je vais plus voir les films québécois. Et au-delà de tous les films que vous avez nommés, là, qui sont très bons, un autre que je voudrais souligner, c'est Ami de Marie d'Avignon, que j'avais pas vu au FNC. Puis honnêtement, pour moi, c'est le film du festival que parmi ceux que j'ai découvert là. Tu sais, même, je regardais d'autres films, puis j'avais le goût de comme réécouter Ami, puis j'y revenais toujours un peu mentalement, là, tu sais, inconsciemment. Mm. C'est tellement un beau film, simple, tu sais, sur juste trois amis au féminin, là, trois amis eux, qui s'en vont dans un bois, dans un chalet, ils vont juste comme boire de la bière, vivre leur vie d'adolescente, jeune adulte. Mm-hmm. Un genre de film comme tout simple, là, mais fait avec tellement de charme, puis de délicatesse. Puis c'est Marie d'Avignon qui est une directrice photo.
Oui.
Puis ça se ressent un peu.
Notamment, là, comme... en fait, Sashenka, là, juste tout récemment, là, pour en avoir un de mémoire récente, mais plusieurs courts-métrages aussi. Là. Non, elle a du métier derrière la cravate.
Oui, fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça super bon. Puis bon, il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait nommer. Mais on va passer également à d'autres trucs. Mais parlant de cinéma québécois, justement, Pascal.
Oh là là.
On a vu un film. Qui, à n'en point douter, parce qu'en ce moment, c'est la période de vote pour les prix Iris, et à n'en point douter, ce film sera certainement parmi les gros titres de l'année. Mm-hmm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que les Iris sont en juin maintenant, tu sais, l'année est séparée comme de mars à mars. Mm-hmm. Fait que des fois, c'est un peu difficile de comme juger l'année comme par rapport à d'autres prix, par rapport, mettons, au prix écran canadien.
Ouais.
Parce que c'est pas exactement la même fournée de films.
Ouais.
Mais donc, Genèse de Philippe Lesage.
Oui, Genèse de Philippe Lesage. Puis, ben, tu sais, juste pour rebondir à une affaire que tu as dit, c'est juste drôle parce que, tu sais, là, les Iris, par exemple, il y a un film comme La Bolduc qui est sorti en avril de l'année passée. Puis là, tu sais, t'as Genèse qui est tout frais, tout chaud sur les écrans aujourd'hui. C'est vrai que t'as comme vraiment l'impression que t'as comme 2 années qui chevauchent, que t'as des films de l'an passé, des films de cette année. Pas que ça change quoi que ce soit pour la qualité puis comme le jugement qu'on en fait, mais c'est ça. C'est un peu différent en ce sens. Mais bon.
Ouais, puis une fois que les nominations seront sorties, tu sais, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être comme ah, pourquoi il n'y a pas Chaîne Garde, pourquoi il n'y a pas tel film, ben, c'est parce qu'il était éligible l'an dernier, c'est ça, donc c'est juste une question de calendrier.
Là. Exactement.
Et donc, c'est ça, Genèse de Philippe Lesage, qui fait office d'un des favoris dans la course, à mon avis, avec évidemment Une Colonie, peut-être Une Grande Noirceur, j'imagine La Chute de l'Empire américain. On va voir les nominations dans une semaine.
Ouais, puis d'autres gros films populaires, je pense. Moi, je pense que La Bolduc a une bonne shot, peut-être même 1991. Je pense que ça va être une année qui va un peu fermer la gueule à Sophie Durocher. Là. J'imagine qu'il y a peut-être 2 ou 3 sur 5. Là, clairement, ça va être des gros hits de box-office. Que, en tout cas, à suivre. Là. Mais bon, fait, okay, qu'est-ce qu'on en pense de Genèse, là, Paul?
C'est ça, Genèse qui nous arrive quand même, bon, après un parcours international remarqué où il a gagné de nombreux prix.
Oui.
Genèse, nouveau film de fiction de Philippe Lesage qui poursuit après les démons. Et il a fait aussi un film entre-temps, Copenhague, Love Story, qui est comme un peu passé dans le beurre, j'ai l'impression, ou du moins à Montréal, ou en tout cas, c'est pas un film qui a eu un grand retentissement. Mais ce film-là est pas mal un peu comment je dirais ça? C'est un peu le nouveau geste après les démons, parce qu'en plus, il reprend un personnage, le personnage du jeune Félix, qui est joué par le même acteur. Genèse, qu'est-ce que c'est? C'est un trio d'histoires, trio de début d'histoire d'amour sur trois personnages qui ont tous un peu des démons intérieurs dans un sens, un récit d'apprentissage.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et deux des personnages sont frères et sœurs.
Demi-frère et demi-sœur, là, je pense, mais oui, c'est ça.
Ouais. Bon. Et c'est un film un peu qui a une signature assez européenne. C'est assez drôle comme film, la manière que c'est fait. Ça ressemble à très peu de choses qui se font au Québec, notamment par une mise en scène, puis un cadrage et l'utilisation de zoom qui détonne vraiment, là, qui fait très changement. Il y a vraiment sa mise en scène très singulière, ouais. comme ça l'était déjà dans le démo.
Non, absolument. T'sais, découpage minimaliste, mais tu as une intelligence aussi au niveau de ses mises en place. Je pense qu'il y a comme ça, il y a une volonté de créer des bulles de temps, puis de pas les lâcher. Puis je trouve que le film a une aura, puis juste ça. Ouais. Moi, je me suis beaucoup attardé à cette question-là. J'étais comme, ah, tu sais, Genèse, les images me restent en tête. Puis c'est, qu'est-ce qui fait qu'un film, des fois, nous habite plus qu'un autre? Puis. Pour plusieurs raisons, hein. Je pense que Genèse, c'est pas nécessairement au niveau thématique, moi, qui m'habite, puis je vais y venir, là, parce qu'on va le décortiquer à ce niveau-là. Mais ne serait-ce qu'au niveau esthétique, là, la bulle esthétique qui est créée par le film, c'est précisément ça. C'est une bulle avec un souci cohérent, son et image et mise en scène pour nous faire, pour créer cette aura-là dont je parle, et une aura comme de, qui nous hante, finalement, qui nous habite.
Ouais.
Mais vraiment, je trouve que c'est ça, une intelligence au niveau de son découpage, définitivement. Ouais. Puis t'as un talent indéniable, en fait, de metteur en scène. T'sais, c'est pas ça. Quand je vais aller dans mes bémols sur le film, c'est vraiment pas ça que je reproche là, du tout au film. Je pense qu'il y a définitivement du talent, du flair esthétique là, à tous les coins de rue dans le film.
Et aussi, peut-être surtout, une ambition, comme on voit rarement, dans la fiction québécoise. Il essaie de rejoindre le microscopique et le macroscopique. On parle vraiment du Québec et de ce qu'est un peu notre société à travers ces trois histoires. C'est ça, une façon un peu de découper les histoires et la structure narrative qui pourrait évoquer certains autres grands cinéastes. Moi, je pense à Wong Kar-wai, notamment, par sa façon un peu de chapitrer son récit. Mais un film aussi qui fait la controverse.
Ouais, non, c'est ça, absolument. Ben oui, t'es trois histoires, deux un peu semi-connectées, puis une qui est juste connectée d'un peu de façon thématique. T'sais. Le film ouvre avec une chanson du folklore québécois, puis c'est cette chanson-là qui est reprise ensuite d'une façon instrumentale là, dans la troisième partie. Fait que c'est un peu ça qui nous fait juste adhérer, si tu veux, à l'espèce de proposition radicale. Puis tu sais. Que le film finalement finit par quasiment un autre film, si on veut. Mais bon, ça c'est au niveau structurel. Et qui sont-ils finalement ces personnages-là? Donc on a déjà la brochette saute aux yeux. Je pense que, moi déjà, tu sais, Théodore Pellerin, il est excellent, c'est pas ça que je reproche. Il y a une brochette de comédiens vraiment superbe dans le film, notamment notamment Rosemary Perrault, notamment... puis tu sais, mais finalement, des Marc Beaupré, qui joue un prof de un coach de football, Paul Amarani en tant qu'enseignant, Mylène Maquet en tant que prof d'anglais. Tu sais, comme, les noms s'accumulent. Aussi une volonté de s'approprier peut-être une étoile montante, une jeune vedette montante là, du cinéma français, Noé Habitat, là, qui fait le protagoniste, le personnage féminin principal, qu'on avait pu voir notamment dans le Ava de Léa Misius il y a déjà quoi, deux ans. Donc un cast très intéressant qui... Puis je pense que ce qui sauve ce cast-là, parce que en fait c'est tellement un bon cast qu'il y a le danger que ça implose un peu sous son propre poids. Moi ça m'a fait notamment ça avec Mylène Maquet. Tu sais pourquoi Mylène Maquet pour un rôle qui a deux lignes, je suis comme c'est pas essentiel. Tu sais des fois c'est que ça fait attirer le regard sur quelque chose d'un peu artificiel, mais le film il s'en affranchit parce que le film n'a pas une volonté d'être réaliste à tout prix. Je pense que le film fait du cinéma, c'est majuscule. Puis, tu sais, c'est ça qui fait qu'on accepte certaines choses, que dans un film qui serait voulu strictement authentique, j'aurais pas adhéré. À commencer par quelque chose que je commence à être un peu tanné. Théodore Pellerin, il a pas de l'air d'avoir 16 ans. Arrêtons ça, là. Tu sais, je veux dire, il a 22 ans, il fait 6 pieds.
C'est un gars de 16 ans, pour vrai?
Mais, oui, puis, tu sais, mais tu sais, il fait pas 16 ans. Il marche plus dans ce contexte-là, tu sais, genre...
Ben non.
C'est ça.
Puis, il a été comme... T'sais, il est vraiment bon, mais il a été un petit peu surutilisé dans les dernières années dans le cinéma québécois. Ouais, je dirais, ouais. Là, c'est le genre l'acteur qu'on a la tête d'affiche de beaucoup, beaucoup de courts-métrages. Puis il a joué tout le temps ce rôle-là, puis il est resté dans ce canevas-là.
Ouais, mais...
Si Watatatao était encore en onde, il jouerait dedans, c'est clair.
Non, bon, en tout cas. Mais après, c'est indépendamment de son talent. Je veux dire, il y a un talent marqué et certain. Puis au-delà d'un talent, même, il est fascinant. Il y a quelque chose de quasiment un peu. Pas félin, mais genre, je sais pas juste comment il bouge, tu sais, il y a comme quelque chose de magnétique, tu sais, derrière un Théodore Pellerin, puis ça, c'est comme, c'est génial. Puis, il faut rendre à César ce qui revient à César, dans le sens où, pas que je compare Philippe Lassage à César, là, mais il les avait quand même dégotés, la plupart de ces acteurs-là, au temps des démons. Fait que, tu sais, comme Rosemary, la première fois qu'on l'a vu à l'écran, pour moi, en tout cas, c'était dans Les Démons, aussi petit ce rôle était-il à l'époque. Fait que, tu sais, je pense qu'il l'a pas volé. Il a fait beaucoup de casting à l'époque et encore probablement. Pis c'est ça qui fait que il y a un œil pour ces comédiens, c'est sûr. Sauf que là, je commençais à sentir qu'il poussait l'enveloppe un petit peu. Là. Il tordait le bras un petit peu à mon... En anglais, là, ce qu'on dit, le suspension of disbelief. Il y a certains rôles, j'y croyais pas vraiment. Mais je l'excusais encore par, comme je disais, le fait que le film ayant tellement une aura forte qui transcende le réalisme. Bon, ça peut encore passer.
Mais là, pourquoi est-ce que le film est si controversé, Pascal?
Ben c'est ça, c'est ça. Là, c'est un film qui est sur toutes les lèvres. Tout le monde a une opinion sur ce film-là. Puis on pourrait se demander pourquoi qu'un film d'auteur, tu sais, pourrait, tu sais, a priori être un parmi d'autres, hein? Au-delà du fait qu'il est bon, tu sais, il y en a plein de films québécois bons qui passent comme ils passent, puis après ça, il y en a un autre.
Mais ce film-là accumule les prix. Oui. Il y a Justine Smith, notre collègue, elle le qualifie pas moins de chef-d'œuvre. Elle dit que c'est un des meilleurs films québécois de l'histoire.
Ouais.
Je partage peut-être pas autant son enthousiasme, mais je suis clairement dans le camp des gens ultra positifs sur ce film-là. Pour moi, c'est le film québécois de l'année.
Ouais.
Mais j'aimerais ça t'entendre, en fait, parce que je sais à peu près c'est quoi tes bébés, on s'en est déjà parlé hors d'onde.
Ouais. Notre collègue qui a moins aimé ça, est-ce qu'il a écrit un article, finalement?
Non, c'est ça.
Benjamin Pelletier, on avait déjà parlé, lui, il a détesté aussi. Puis c'est ça, c'est moins pour la mise en scène ou quoi que ce soit de savoir-faire que vraiment le côté un peu... On peut le qualifier peut-être d'être un peu misogyne ou d'être un film un peu voyeuriste ou qui exploite un peu sa vedette pour... Parce que bon, là où on peut peut-être sentir une certaine expérience envers les rôles masculins, puis on sent qu'il y a vraiment une part d'autobiographie. Puis d'ailleurs, tu sais, je veux dire, le personnage de Félix, ça, c'est sûrement son alter ego, puis c'est un peu son Antoine Doinel qui essaie de faire de film en film, j'ai l'impression.
Possiblement.
Et ça, je me dis bravo pour avoir l'ambition de faire ça, tu sais, pour faire non seulement le pari que ce film-là va marcher, mais que tu vas avoir une longue carrière, tu sais, je veux dire, moi, je suis totalement en accord avec ça. Mais peut-être qu'il n'a pas ce qu'il faut, ou du moins que ses personnages féminins, c'est plus dur pour lui.
C'est ça.
Parce que le personnage féminin, dans ce cas-là, sauf être jolie, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'ambition, beaucoup de choix, beaucoup d'activités, beaucoup de conversations. Elle est souvent à l'écoute. Elle est souvent manipulée, elle est souvent victime des événements.
Ouais.
Au propre comme au figuré. Et on peut toujours dire oui, mais tu sais, c'est le genre de truc qui effectivement arrive. Est-ce que c'est un commentaire sur. Un peu comme un Denis Arcand, tu sais, qui fait des personnages d'intello super misogynes et tout ça. Mm. Est-ce qu'il faut pas y voir un peu un commentaire, je pense, sur ces personnages masculins plus que vraiment une réflexion sur les personnages féminins? Je sais pas trop.
Mais c'est ça. C'est que je pense que le film, c'est qu'une fois. Si on est agacé par le regard du film, là, par le point de vue porté, tu sais, la caméra, c'est une extension là, de quelque chose, je veux dire. Puis, moi, tout ce qui a trait à la storyline de Noé Habita m'a créé un profond malaise. Tu sais, ça commence par la façon comment il la cadre, puis ça finit par juste la façon comment elle est écrite, puis sa destinée, c'est-à-dire, il lui crée un destin où ce qu'elle fait, finalement, c'est que, ben, au début du film, tout bonnement, son chum, interprété par Pierre-Luc Funk, lui tend une perche un peu ouverte que, ben non, on sera peut-être pas des chums des blondes toute notre vie, puis moi, je veux peut-être pas fermer ma porte à mes opportunités, fait. Puis elle fait « Ah, ok, ben moi aussi. » Puis là, on pourrait voir là-dedans un geste d'empowerment, c'est comme « Ok, tu sais, elle peut... » Ben non, elle se fera pas marcher ses pieds, puis elle aussi, elle va décider de vivre une vie sexuelle libérée. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'elle commence à faire ça? Elle accumule les mauvaises décisions, par-dessus mauvaises décisions, mais d'une façon, elle est boniche, elle voit rien, elle est aveugle. D'un, elle commence avec un bonhomme qui la manipule sur tout de bras, il y a un gros loser décrit dans le front, puis elle voit pas ça, parce que c'est un beau bonhomme, j'imagine. Donc, une nunuche complètement, au point où, en fait, on n'a plus envie de cheerer pour elle. Je veux dire, c'est un corps qui flotte, elle est filmée comme telle, puis elle a un destin qui, sans rien révéler, ça fait juste couler. Tu sais, puis c'est comme, qu'est-ce que tu lances comme message, dude? Genre, t'es en train de dire que c'est quoi, c'est ton cas typique de genre de perte d'innocence d'une jeune femme qui essaye juste de comme vivre une sexualité? Genre, get out of here. Il y a vraiment pas le doigt sur le zeitgeist, là. Il y a vraiment pas le droit sur 2019 en ce moment, là, notre ami Philippe, là. En ce qui a trait au personnage féminin, parce qu'en fait, c'est pourquoi je suis autant animé par ma haine de cette storyline-là, c'est qu'au fait, moi, je suis entre les deux. Moi, je t'avoue que j'ai bien aimé le film parce que les deux autres histoires, celle donc de Théodore Pellerin qui... on révélera pas finalement, là, mais Théodore Pellerin dans une école de garçons, là, disons juste ça. Puis une dans un camp de vacances, la jeunesse, donc peut-être oui, d'un premier amour. Hein, ça commence tout le temps par des papillons dans le ventre. Puis je pense que le film finit sur cette note-là. Très beau, très efficace, bon, tout ça. Fait qu'en fait, c'est la force des deux autres histoires qui a fait en sorte que je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire avec l'histoire de Noé Habitat. Puis c'est plus que Noé Habitat, c'est même ses amis qui sont tous des bonnes comédiennes a priori, mais c'est comme un groupe de filles qui se saoulent. Tu sais, y a rien, y a aucune substance. C'est là où les gars, ils vont essayer, tu sais, ils vont se parler de quelque chose de deep et de profond. Les filles, ça flotte en superficie, puis là, l'air, puis... Hey, sérieux, dude, là.
Mais... Ouais. Sauf que, en même temps, Pascal, tu sais, je t'entends, là, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment la... Je sais pas si c'est la lecture adéquate du film, dans le sens que je ne suis pas certain que le film porte un tel jugement sur ces personnages féminins. Mm-hmm. Et là, où tu vois un peu un manque de clairvoyance, et tu sais, peut-être qu'on peut y voir aussi une vertu de juste faire confiance aux gens, puis d'essayer des choses, puis là où tu vois juste des femmes qui ne font que boire, puis dire des choses insignifiantes... Peut-être aussi que le film se moque un peu de ces personnages masculins qui sont tellement perdus dans leurs pensées profondes, alors qu'au fond, est-ce qu'il faut pas juste profiter de la vie un peu, puis mm-hmm. tu sais, d'avoir du plaisir, puis d'arrêter de s'en faire, tu sais. Je pense que le film est assez ambigu pour que ça soit pas aussi explicite, puis que ça soit pas aussi comme dichotomique entre la storyline féminine et les deux autres. Mm-hmm. Est-ce que c'est mon segment préféré? Absolument pas. Puis je pense qu'effectivement, tu sais, puis c'est un peu unfair, mais tu sais, n'importe quelle scène avec Théodore Pellerin, je trouve qu'il mange l'écran, tu sais, puis c'est un peu unfair. Tu sais, puis il y a vraiment des séquences, t'as l'impression que c'est semi-improvisé avec des camarades de classe, puis d'ailleurs, des superbes scènes de classe. Parce que c'est quelque chose, je pense, qui est dur à faire au cinéma, tu sais, de rendre des cours attrayants, puis. Tu sais, Amarani est vraiment bien cassé dans ce rôle-là, là, plus que genre un gangster dans Chaîne Garde.
Il est tout le temps un peu cartoon,
il est un peu cartoon aussi.
Il est tout le temps un peu plus grand que nature, il est tout le temps comme homme de théâtre, là, on s'entend. Là.
Ouais. Mais ça marche, parce que là, c'est un professeur de philosophie qui est un peu genre, qui parle de sexualité, puis qui est un peu lourd, puis tu sais... C'est le fun, il y a des belles confrontations avec ses étudiants, tu sais, puis... non, j'ai vraiment beaucoup aimé les scènes de classe et plusieurs autres moments dans le film. Et vraiment comme... Au-delà de... Bon, parce que au final, il touche à des thèmes universels, puis c'est rien nécessairement de novateur ou d'inédit, ce qu'il va déclarer, le film. Mais reste que... je pense à un plan qui ouvre la dernière partie, donc alors qu'on change totalement d'histoire.
Ouais.
Et c'est une espèce de long zoom là, élaboré qui se déplace à plusieurs reprises, qui nous montre dans la foule, qui zoome sur une fille, ensuite qui tasse à l'autre bout complètement du feu de camp, qui zoome sur l'homme, sur le jeune homme en fait, le jeune garçon, et par une économie de moyens là, remarquable. Là, comme juste là, dans un seul plan, on dirait que tu as tout compris.
Oui. Ça, c'est du talent pur et dur. Cette clairvoyance-là, il l'a. Mais je pense qu'au niveau thématique, c'est que la ligne peut être mince. Tu comprends, c'est que c'est un film qui peut avoir le défaut de ses qualités puis les qualités de ses défauts. C'est un de ces fameux films-là parce que là où quelqu'un peut voir quelque chose de toujours comme frais puis vif puis brillant, quelqu'un d'autre qui pourrait voir beaucoup de complaisance, je crois. La ligne est mince. Moi je suis pas aussi... je salue Benjamin s'il nous écoute, là. Mais tu sais, moi, je suis pas du camp des haters, là. Puis j'aime aussi qu'un film comme ça nous attise autant de conversations passionnées. Parce que, je veux dire, il y a tellement de choses passionnantes qui sont faites, il y a tellement de choix audacieux, il y a quelque chose de bold dans un film comme ça. Puis bon, tu sais, c'est comme... Donne-moi-en des films de même, puis on va en débattre. Si tous les films étaient comme ça, il me semble que ça nous ramènerait un peu de vie dans notre paysage cinématographique. Ça, là-dessus, je t'entends, je suis 100% d'accord.
Puis d'ailleurs, notre début d'année est quand même assez fou. Là, entre le Maxime Giroux, le Denis Côté, Genèse, des films que j'ai pas vus comme Cash Nexus, des trucs comme ça, Une Colonie aussi qui est sortie en début d'année. Ça fait vraiment là, un des plus gros débuts d'année pour les cinéma québécois depuis longtemps.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment cool et ça va être le fun de voir ça dans les mois à venir aussi, tout ce qui s'en vient.
Ouais.
Puis ouais, peut-être un mot de la fin, mais moi je pense vraiment que c'est un film, j'ai l'impression, qui va certainement marquer la carrière de Philippe Lesage pour le meilleur et pour le pire, j'ai l'impression, avec son succès déjà consacré, là, critique, à défaut peut-être d'être public, mais je pense que ça va vers une direction bien à lui et qui, dans un sens, je pense qu'on accroche ou pas à son cinéma. Moi, j'étais vraiment déçu par Les Démons. J'avais vraiment trouvé que c'était tape à l'œil.
Ouais, c'est ça, moi aussi.
Et que c'était maladroit. Là, j'ai l'impression qu'en une poignée d'années, en une poignée de projets, c'est devenu comme vraiment quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Et j'espère qu'il va continuer à se remettre en question puis à explorer cette avenue-là. Parce qu'on a vraiment besoin, je pense, de cinéma ambitieux.
Ouais.
Par la force, par le hasard des choses, on s'est fait un doublé cette journée-là, moi et toi, Pascal, puis on écoutait La Chute de Sparte.
Hippolyte.
Juste après, tu sais, qui se passe également dans un cadre scolaire, etc. Puis, tu sais, je veux dire, la comparaison fait mal à La Chute de Sparte. C'est comme t'en as un que c'est du cinéma, puis c'est des idées, et l'autre que, tu sais, c'est un scénario pour ado un peu convenu, puis une réalisation, tu sais, correcte, là, tu sais, efficace pour ce que c'est, mais, tu sais, pas plus qu'il faut.
Non, non.
Donc, reste que Genèse nous propose quelque chose qui est franchement... intéressant puis inspirant.
Ouais. Ben, on a toute la gamme, hein. Chez Point de vue, on a des gens qui détestent, des gens qui adorent, on a tout la gamme entre, donc...
Il y a moi qui l'a pas vu.
Même des gens qui l'ont pas vu. Écoute, il y a de tout à Point de vue avec Genèse.
Ben, puis ça représente un peu, je pense, l'accueil des gens. Ouais. C'est pour ça que je pense sûrement un film qui va récolter de nombreuses nominations aux Iris, mais peut-être pas peut-être sans les remporter.
Mm-hmm.
S'il y avait peut-être un prix à lui décerner, là, d'après moi.
Distribution des rôles, peut-être.
Ouais, meilleur casting, mais meilleure direction photo, selon moi.
Oui, peut-être. Hein.
Même si c'est vraiment comme une des catégories les plus chaudement disputées à chaque année, je pense.
Sarah Michara, hein, aussi, hein, pour La Grande Noirceur. Là,
ouais,
ça va être
Donc,
la femme à battre.
J'ai bien hâte de voir comment ça va se livrer, tout ça.
Bon.
Sinon, Rémi.
Allô?
Pendant qu'on écoute des films québécois controversés...
Qu'est-ce que tu fais, toi, Chris? Oui.
Toi, tu découvres une série télé, tout ce qu'il y a de plus comique à ce qu'on dit, qui est, dans le fond, la poursuite du film de Taiki Waititi, What We Do in the Shadows.
Ben oui, que dire... en fait, Taika Waititi, hein, on dit ça?
Ouais.
On dirait une chanson, hein, son nom, je sais jamais comment le... Mais moi, je l'ai découvert dans les dernières années, puis c'est comme un... hit à chaque fois, là, c'est avec What We Do in the Shadow que je recommande fortement sur Netflix, là, qui est en fait un faux documentaire néo-zélandais sur une gang de vampires qui habitent en colocation. Une belle mythologie qui est construite autour de personnages comiques. Ça a été coécrit par un des membres de Flight of the Conchords aussi. Puis dans le film, là je parle du film vraiment, Il y a le gars de Flight of the Conchords qui joue, Jermaine Clement, et je sais pas je le prononce comme il faut, et Taika Waititi, que je sais pas non plus je le prononce comme il faut, mais les deux, dans le fond, sont les vampires principaux dans le film. Puis c'est vraiment l'école du faux documentaire à la Christopher Guest, mm-hmm. là, tu sais, Best in Show et compagnie, avec de l'entrevue, mais aussi des belles scènes où les personnages vivent leur vie de vampire puis essaient de se trouver des victimes. Mais en même temps, c'est tout laid back parce que c'est des colocs. Puis ben, à travers les années aussi, le réalisateur il a fait des films comme Hunt for the Wilder People avec Sam Neill, que j'avais mis dans mon top 10 à l'époque. Un super bon film avec sa touche néo-zélandaise. Puis finalement, il s'est fait repêcher par Marvel pour faire le dernier Thor, le Thor Ragnarok, qui est probablement un des films qui a le plus de personnalité dans toute la gamme Marvel. Ouais.
Le plus de Jeff Goldblum.
Oui, le plus de Jeff Goldblum. Fait que c'est ça, c'est le plus de personnalité. Mais tu sais, juste ce film-là, l'humour, le soundtrack, la façon qu'il travaille ses dialogues, c'est beaucoup avec de l'impro. Fait que ça se rattache beaucoup au style de What We Do in the Shadow. Puis ça fait des années aussi qu'il essaie de mettre sur pied une série avec What We Do in the Shadow. Puis je devine qu'avec le succès qu'il a eu avec son tour, il a dû avoir des belles portes qui se sont ouvertes. Et en fait, c'est le style esthétique est repris dans la série, mais se transpose à New York avec une autre gang de vampires. C'est un peu des équivalences de ceux de la Nouvelle-Zélande.
Mais là, dis-nous, est-ce que c'est lui qui produit, c'est lui qui réalise?
C'est quoi ça? C'est, donc, lui et Jermaine Clement ont co-écrit. Puis Jermaine Clement, Taika Waititi a réalisé le premier épisode. Donc c'est le seul qui est sorti pour l'instant, mais la facture visuelle est identique au film. Fait que ceux qui en voulaient plus après le film, c'est exactement ce que ça nous donne. C'est encore le système de colocation des vampires qui vivent depuis des centaines et des centaines d'années ensemble, qui se tapent vraiment ses nerfs, qu'on a des colocs qui nous tapent ses nerfs après 3 ans. Ben là, eux, ça fait des centaines d'années qu'ils vivent ensemble. là, ils ont introduit un personnage féminin, ce qui fait quand même du bien aussi, là, une vampire. Mais il y a plein de gags vraiment cool. Tu sais, des clins d'œil à la mythologie des vampires, mais à comment cette mythologie-là s'est transformée à travers les années. Il y a même un clin d'œil à Twilight à travers le premier épisode, juste pour rire un peu de tous les extrêmes dans lesquels on peut aller avec les vampires. Puis ils ont aussi leur... c'est un peu une autre suite du film, mais ils ont un genre de butler, un servant qui est humain puis qui espère tellement se faire transformer en vampire. Puis ça fait 10 ans qu'il sert les vampires. Puis en fait, dans cet épisode-là, ils attendent la visite d'un grand comte vampire qui vient les visiter dans son cercueil. Donc ils vont se préparer à l'accueillir. Mais bon, c'est un épisode 1, hein, fait que c'est juste la mise en place de la série. Mais je peux juste le recommander. Puis en fait, si vous n'avez pas vu le film original, c'est un film qui est devenu culte assez rapidement, pour sa facture particulière. Puis tu sais, c'est vraiment bien fait aussi, la façon que qu'ils vont tourner les moments horreur aussi sont tournés façon documentaire. Il y a une chasse, entre autres, dans la télésérie. Ils vont aller dans un parc pour se trouver une victime. Puis ben, tu sais, de la façon que c'est filmé, c'est super réaliste. C'est des effets qui sont live sur le plateau, là. C'est pas du CGI ou des effets 3D. Fait que ça file vraiment réel, ça file documentaire. Ça fonctionne très bien. Puis il y a une petite apparition aussi dans l'épisode 1 d'un de mes préférés, Doug Jones, qui est un des réguliers de Guillermo del Toro, qui fait toutes les bébites de Guillermo del Toro. Donc il est encore en full bodysuit, là. On y voit jamais la face dans les films, mais il y a un petit rôle, je vous dirai pas quoi, là, mais il apparaît dans l'épisode 1, puis c'est super divertissant. Fait que, bon, je peux pas trop étirer cette critique-là, c'est quand même un épisode d'une demi-heure, fait que... Mais je peux juste recommander la série, là. C'est complètement dans l'esprit du film original. Rattrapez ça sur Netflix, là, c'est vraiment, vraiment recommandé. La série n'est pas sur Netflix, par contre, on se croise les doigts pour que ça arrive, là.
D'ailleurs, il y a une autre grosse série télé qui vient tout juste de sortir son premier épisode.
Qu'est-ce donc?
Le reboot de Twilight Zone, produit par Jordan Peele.
Ah oui? Ah, c'est sorti?
Ben, le premier épisode est disponible de Comedian. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Mais ça a l'air très alléchant, ce reboot. Et puis, bon, évidemment, Twilight Zone, c'est peut-être l'une des 10 séries les plus importantes de l'histoire de la télévision.
Hein. Il a pas fait... Ils ont dit ce qu'ils ont refait, Terreur à 60 000 pieds, là, le classique, en fait, qui avait été fait originalement avec William Shatner dans les années 60, où il y a comme un gremlin sur l'aile de l'avion. Puis, le gars, il panique. Il y a vraiment une crise de panique dans l'avion. Puis, il l'avait refait dans le film. Puis, c'était George Miller, en fait, qui avait réalisé la version remakée. Puis là, il y avait un autre genre de créature sur l'aile de l'avion. Puis, ils le refont, là, mais avec le gars qui... Je me souviens jamais du nom de ce comédien-là, mais il fait toujours des douchebags dans tous les films, là. Mais vous allez voir les photos promo, vous allez voir exactement de qui je parle. Mais Scott, quelque chose, là, en tout cas. Mais ils ont fait comme un remake, donc c'est la troisième version de cette histoire-là qu'ils ont repris dans... Mais je pense qu'il est dans le premier épisode ou dans le deuxième, ça se pourrait. Mais ouais, je suis bien excité. Jordan Peele, on a beaucoup nos espoirs sur lui, là, pour ramener l'horreur à l'avant-plan.
Ouais, d'ailleurs, ben, c'est évidemment en salle. On l'a pas vu, si je ne m'abuse, personne de nous trois, là. Mais.
Hey, non, j'étais supposé d'aller le voir. Dans 2 jours, je suis là, puis on en parle au prochain podcast, c'est sûr.
Mais là, toi, Rémi, là, t'en as vu un, par contre, au cinéma, là, récemment, là.
Ouais, ben en fait, tu sais, quand on enregistre le podcast, on est tout le temps, Paul nous demande qu'est-ce qu'on a vu, puis là, moi, j'en regarde pas de long ces temps-ci, je regarde les trucs de Fantasia, toutes les soumissions de Fantasia, puis aujourd'hui, j'ai comme une heure qui s'est comme libérée gratuitement dans ma journée.
Puis les films de Fantasia que tu peux pas nécessairement non plus discuter, là, donc c'est un peu délicat.
Non, ouais, c'est ça, fait que je peux même pas en parler sur le podcast, tu sais, même, je regarde des longs-métrages, mais je peux pas en parler, puis là, j'ai comme une heure magique qui s'est libérée dans ma journée, puis j'ai regardé qu'est-ce qui fitait. Puis ça a été The Beach Bum de Harmony Korine.
Beach Bum. Hey, ça, là, ce film-là, ça fait longtemps là, que je l'attends, puis les images sont tellement cool. Une espèce de film qui se passe à la plage de Bosé, avec un casting incroyable. J'ai lu une entrevue où quelqu'un a demandé à Harmony Korine c'est quoi l'inspiration pour la coiffure de Zac Efron. Puis ceux qui ont vu les photos s'en rappellent. Et il a répondu un panini.
Oh my God! Ouais, c'est ça. Mais Zac Efron, il est là. Tu sais, je veux pas te gâcher ton film, mais Zac Efron, il est là 15 minutes, 10 minutes.
Parce que
c'est comme, il y a beaucoup de rôles, en fait, qui sont mis de l'avant dans le trailer, qui sont comme pas beaucoup là. Fait que, montre pas trop tes attentes par rapport à ça.
Non, parce que le film tourne autour de Matthew McConaughey, qui incarne Moondog, un poète déchu, un peu.
Exactement. Bon, ben, tu viens de résumer le film en entier, Paul. Je te donne l'étoile du match. Parce qu'en gros, je te dirais que The Beach Bum, le synopsis complet du film tient dans son titre, The Beach Bum. C'est pas mal ça, le film.
Ouais.
Ce qui arrive, c'est que, tu sais, honnêtement, mon côté, on dirait que chaque fois qu'Harmony Korine sort un film, je suis super excité de le voir. Puis en même temps, je suis jamais ultra satisfait après le visionnement. Je pense pas qu'Harmony Korine a fait de... Bon, c'est discutable, là, mais je pense pas qu'elle a fait de très grands films. Tu sais, Gomo, ça reste un classique. Mais, tu sais, mettons qu'on parle Mr. Lonely, c'est pas très bon. C'est Trash Humper.
C'est
un ovni.
Non, mais Gomo, pour moi, c'est plus qu'un grand film. Gomo, c'est un chef-d'œuvre. Mais fait que, tu sais, ça, on pourrait débattre. Là. Mais
c'est un âge, tu sais, mais tu sais, il a vite, en fait, dit que sa technique de tournage, c'était d'enchaîner des moments forts sans nécessairement avoir la trame narrative qui relie tout ensemble. Au moins, tu as une série de moments forts, puis tu as des images que tu te souviens. Mais je pense qu'il travaille un peu encore dans cette optique-là. Mais c'est un peu le skater guy qui est rendu à 45 ans puis qui essaye encore de faire des tricks de skate. Mm-hmm. Fait que pour moi, ça colle pas tant que ça. Puis je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment devant The Beach Bum, mais tu sais, c'est pas un film que je vais revisiter puis que je vais avoir vraiment du plaisir. Là. C'est un 1h30 assez flat, puis c'est ça qui est ça dans le film. Mais tu sais, je pense que le parallèle le plus intéressant à faire avec The Beach Bum, c'est avec justement la carrière d'Harmony Korine, où tu sais, le personnage de Matthew McConaughey, c'est un poète déchu, comme tu disais, Paul, qui est devenu un peu bum, qui fait sa poésie un peu n'importe où. Il va voler un micro dans une soirée, il va dire quelques lignes de poésie, mais sinon, le reste de sa vie, il va se laisser porter, il va faire un peu ce qu'il veut. Harmony Korine a vite été appelé au génie quand il a fait le scénario de Kids, quand il avait quoi, 16 ans, 17 ans?
Genre, là, ouais.
Fait que rapidement, c'était le génie de la scénarisation. Puis après ça, il a embarqué là-dessus, il a fait Gomo, qui est probablement son meilleur film. Mais après ça, il a un peu fait du cinéma un peu à gauche, à droite, slacker. On va faire un peu des trips visuels, des trips narratifs. On va jamais essayer de faire une grande œuvre. Puis ben, le personnage de Matthew McConaughey, en fait, il est obligé à un moment dans le film d'écrire le roman qu'il a toujours promis qu'il allait écrire.
Mm-hmm.
Fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros parallèle à faire avec ce qu'Harmony Korine a vécu à travers sa carrière de cinéaste. Mm-hmm.
Avec genre l'angoisse devenu, de l'artiste. Puis...
Ouais, le génie qui est devenu bum, puis finalement, il a fait un peu ce qu'il voulait, puis il a un peu plané là-dessus, puis hey, on fait ça un film, ça va être cool, on va prendre du monde déguisant vieux qui vont zigner des poubelles, puis ça va être ça mon film. Fait que c'est un peu le meilleur, je pense, le meilleur parallèle, la meilleure métaphore dans le film. Sinon, écoute, c'est une série de moments. Là, il y a des moments forts, je dirais, des bonnes scènes, des bons flashs. Mais il n'y a pas une histoire qui va tout rattacher à ça. Puis il n'y a pas nécessairement un ton constant tout le long du film.
Ouais.
Il y a même un moment un peu slapstick gore dans le film que je révélerai pas, là, mais qui, bah, ça arrive, puis ça donne pas tant de conséquences au personnage, puis le film continue, puis lui reste sur sa vibe. Mm-hmm. Il fume tellement de weed dans le film que finalement, il est comme sur une vibe constante tout le temps.
Mais est-ce que tu penses que c'est le genre de film, Rémi, qui à une autre époque, on a rattrapé sur TQS un peu par hasard, puis qu'on aurait trouvé que c'est comme le meilleur film au monde, parce que tout le monde l'a vu à TQS, genre? Est-ce que tu penses que c'est un film qui est peut-être pas nécessairement dédié à la salle, ou comme...
Ouais, I guess que c'est peut-être arrivé un peu tard comme film, mais tu sais, c'est comme... des films de slacker comme ça, qui n'ont pas de but. Il y en a qui avaient dit que Under the Silver Lake, c'était un film de slacker. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouvais que justement, le non-sens donnait un sens au film. Ça, c'est un vrai film de slacker, de Beach Bum. Là. C'est... Quand je dis le titre, c'est le synopsis, là, c'est vraiment ça. Là. C'est Matthew McConaughey a une bière dans les mains puis un joint pas mal dans toutes les scènes. Puis c'est lui qui erre, puis qui rencontre des personnages, puis que ça avance, l'histoire avance un petit peu, mais comme je vous dis, c'est une heure et demie, là, barely, là, tu sais.
Mais c'est ça, mais moi, je suis curieux de, parce qu'en plus, en fait, c'est drôle que t'aies réussi à en parler pendant genre 10 minutes sans jamais faire mention de Spring Breakers, parce que moi, tu sais, ça saute aux yeux que Harmony Korine est comme dans
ouais, c'était l'autre qui me manquait, c'est vrai, à nommer Spring Breakers.
Non, mais c'est ça, mais tu sais, alors que moi, ça saute aux yeux qu'on dirait que c'est vraiment une œuvre qui lui répond. Est-ce que tu sens que, tu sais, Spring Breakers, personne l'attendait d'une certaine façon, tu sais, c'est Harmony Korine, puis est-ce que tu sens que c'est peut-être un peu complet dans... complaisir, en tout cas, qu'il se complète peut-être avec l'esthétique puis un peu les thématiques qu'il essaie d'aborder dans Spring Breakers? Est-ce que tu sens qu'il y a... Parce que, tu sais, dans Spring Breakers, il y a quand même... C'est que c'est un film qui est le fun pour plusieurs raisons. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Puis je pense que là, on va commencer à bientôt à réfléchir à la fin de la décennie, fin de 2019, un peu c'est quoi les œuvres marquantes de la décennie 2010. Puis pour moi, Spring Breakers, c'est un immanquable. Je trouve qu'il y a, presque un sous-genre de cinéma indie américain dans les thématiques, dans le regard. Comme c'est pas du réalisme. T'sais, dans les années 90, ce genre de film-là aurait voulu être réaliste à tout prix. Puis je trouve qu'Harmony Korine amène une genre de poésie là où on l'attend pas. Puis je trouve que Spring Breakers, c'était vraiment cette espèce d'hybride-là, tu sais, qui a été peut-être repris dans un film, évidemment, comme American Honey ou dans plein d'autres que je pourrais nommer, mais tu sais, mais dans Spring Breakers, il y avait aussi un genre de message, pas un message, parce que c'est quasiment trop donné à Harmony Korine, mais je trouve que malgré tout, il y avait un portrait macro qui était très intéressant dans Spring Breakers. Puis Beach Bum, tu sais, c'est quoi? C'est le portrait des stoners qui ont pas de but dans la vie, puis... Mais c'est pas, ouais, ça n'a pas l'air d'être critiqué, parce qu'Harmony Korine critique jamais ses protagonistes qui sont toujours un peu problématiques, mais il les critique jamais, là. C'est à peu près ça qui fait... Tu sais, lui, il a le vivre et laisser vivre vraiment... Il n'y a rien qui le choque, Harmony Korine, là. Je veux dire, je pense que ça paraît dans ses films. Mon point, en fait, c'est comment il se compare un peu à Spring Breakers, tu sais? Est-ce que tout a été dit dans Spring Breakers, puis là, c'est de la redite pré-mâchée, ben, ou c'est quoi?
Peut-être un peu. J'ai l'impression que... Tu sais, Spring Breakers avait peut-être plus un parti pris esthétique, puis il y avait plus l'aspect de nouveauté aussi, là, comme tu dis, c'était comme précurseur au American Honey de ce monde. Là. Puis c'est vrai que moi, je l'ai pas nommé là, dans la liste, mais tu sais, ça, c'est un autre film que je pense qu'on retournerait dans le podcast quand on est allé le voir, puis j'étais pas tant enthousiaste. Je veux dire, j'ai aimé ça, le Spring Breakers. J'ai aimé plus Spring Breakers que Beach Bum, mais je pense pas que j'étais... méga enthousiaste, mais tu sais, j'ai apprécié. Il y a plus de moments forts, d'après moi, dans Spring Breakers, puis comme je disais, un parti pris esthétique plus assumé. Là, j'ai comme... On dirait que j'ai quasiment l'impression que ça fait quoi? Ça fait 4 ans déjà, là? Puis qu'il est fait...
Plus que ça, Spring Breakers, c'est 2012, man. 2012.
Mais non, c'est ça, mais il a comme fait... Fuck, j'ai pas fait de film dans tant d'années. Faudrait bien que je filme un film vite, tu sais, en entre-temps. J'ai comme... On dirait que c'était comme un peu... Le film est slacker, autant dans la réalisation, dans le montage aussi. Il y a comme des scènes où tu vois que les dialogues sont un peu improvisés, sont un peu faits sur le fly. Puis probablement qu'il a retourné des scènes deux, trois fois, je l'espère. Mais les personnages sont vraiment pas dans les mêmes positions, puis ils s'en foutent complètement au montage. Des fois, tu as un jump cut, la conversation continue sur sa lancée, puis les personnages sont complètement dans d'autres spots différents, mais c'est la suite de la conversation. Fait qu'on dirait que tout est un peu comme « on s'en fout, là, on s'en fout, on fait un film, tu sais, on... » Tant que l'information est véhiculée puis que le film avance, on est good. On dirait que tout est un peu mou là-dedans. Là. Mm-hmm. C'est un peu dans la philosophie du personnage aussi. Spring Breakers était plus affirmé dans son esthétique. Mm-hmm. Bon, eh ben, rendu là, peut-être que vous allez vraiment apprécier, là, mais moi, j'ai comme... C'est ça, là, c'est un film que je ne revisiterai pas de sitôt, qui était agréable pour l'heure et demie que ça a duré. Tu sais, ce qu'il y a de bon à dire aussi, je dirais que c'est le casting, là. Matthew McConaughey, il est le fun à regarder pendant une heure et demie. Là. Il est... c'est son rôle de Dazed and Confused, mais genre, tu sais, à cette heure qu'il a comme 50-55 ans, là, un truc de même. Là. c'est le même genre de personnage de Stoner, mais c'est comme si le gars il avait pris la mauvaise tangente et qu'il avait, il était rendu là. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis Matthew McConaughey, il a du fun, là, puis ça paraît. puis avec les apparitions de Snoop Dogg aussi, qui est toujours trippant à regarder, qui est tout le temps en train de fumer une espèce de, tu sais, on appelle ça un bat, là, vraiment, parce que c'est un gros joint, là. Il y a tout le temps ça dans les mains. Mais tu sais, c'est vraiment ça, je pense, le highlight du film. C'est pas un film qui est trippant sur la cinématographie, c'est pas un film qui est trippant sur l'histoire, c'est juste un slacker movie, là. C'est pas mal tout ce que c'est, là.
Eh bien, j'ai quand même hâte de le voir, Rémi. J'avoue que tu m'as pas totalement convaincu de passer outre.
Mais c'est ça, c'est pas un film à chier, mais écoute, je pense que certains vont trouver leur compte là-dedans, mais je pense pas que c'est un grand film, là.
Puis tu sais, on peut pas s'empêcher aussi de penser un peu à The Dude, hein, puis à The Big Lebowski, tu sais, c'est peut-être des fois des films weird de même, ils peuvent, tu sais, des fois, étrangement, devenir culte ou je sais pas, tu sais, peut-être qu'un jour il va y avoir des trucs qui vont se compter de ce
manque de weird, en fait.
Il manque de quoi?
Tu sais, à côté d'un Big Lebowski, il manque le weird, il manque comme le... Il aurait pu pousser, je pense, une coche de plus pour que ça soit... Tu sais, je pense que dans un Spring Breakers, là, James Franco, il est surréaliste. Là,
ah oui,
il est comme... C'est vraiment un personnage plus grand que nature, weird. Là c'est juste, c'est des stoners. Là, c'est du monde... c'est pas, là, c'est comme... Il y a rien de complètement out there. Là,
Puis je pense que la production, mettons, d'un film comme The Big Lebowski ou Inherent Vice... est vraiment maîtrisée puis ambitieuse. Je pense peut-être là la différence avec ces films de Stoner par rapport à The Beach Bum.
Ouais.
Sinon, parlant de films américains super esthétiques à la grande signature visuelle.
Ouais.
Pascal Plante, t'as vu le film préféré de ma copine de l'an dernier.
Eh ben.
Un film qui est passé vite fait en salle, mais qui parle beaucoup de la société contemporaine, qui parle de notre fascination avec les célébrités, qui a un très bon casting également.
Oui.
Film de Brady Corbet, son deuxième, je pense.
Oui, deuxième long-métrage, mais Brady Corbett, là, j'imagine qu'on le dit comme ça, Corbett. Lui, en fait, on l'a connu comme acteur, notamment comme un des deux bums là, dans le Funny Games, là, le remake, celui avec Natalie Portman et Tim Roth, qui jouait aux côtés de... Voyons, c'était qui d'autre?
Michael Pitt.
Ouais, c'est Michael Pitt, exactement. Puis... tu sais, toujours des rôles un peu champ gauche parce que je pense qu'il y a vraiment une vibe très sombre slash inquiétante. Tu sais, comme on l'a vu notamment dans des films comme Martha, Marcy, May, Marlene ou tout des films un peu, puis même le genre de cinéma qui l'attire, on dirait, et autant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Donc, en tant que réalisateur, il a fait le film The Childhood of a Leader en 2015 et... Là, il nous arrive avec Vox Lux, son deuxième long métrage qui est sorti à Venise, je pense, l'an passé.
Vox Lux, contrairement à ce que son affiche laisse croire de Vox Lux, ce n'est pas un film qui tourne 100% autour de Natalie Portman en tant que rockstar.
Non, absolument.
C'est vraiment un film en deux parties, puis comme genre de film ultra découpé, là, comme que soudainement, c'est comme OK, on passe au prochain chapitre, à l'image peut-être d'un Genèse ou de tant d'autres.
Oui, non, absolument.
Mais, film en deux temps. Là.
Ouais, puis tu sais, c'est un peu galvaudé comme expression, mais tu sais, vraiment film d'auteur là, pour ce que ça veut dire ou ne pas dire. Là. C'est ça, là, je veux dire, là, ça commence avec un générique de fin déroulant. Tu sais, il y a comme tout plein de petits quirks, là, de petites trouvailles esthétiques, sonores, musicales. C'est comme, OK, il y a du zèle, il y a du style. C'est comme, OK, ouais, si on s'attendait à quelque chose de stérile, non, on n'est pas là, là. On va se faire un peu brasser dans tous les sens. Et qu'est-ce que le film? J'ai vraiment pas envie de vous en parler beaucoup au synopsis parce que même si vous savez pas certains des éléments centraux du film, je pense que c'est quasiment bien de ne pas trop le savoir et de se laisser un peu violenter par ça.
J'avoue que lorsqu'on l'a vu, nous, on n'avait aucune idée, sauf que moi, je trouvais que la bande-annonce avait l'air cool. J'aime beaucoup Natalie Portman. Ça avait l'air d'être un rôle un peu fait pour elle, donc je me suis un peu laissé embarquer par confiance. Et dès la scène d'ouverture, vraiment, c'est comme... Il y a des choix très radicaux dans le scénario qui effectivement sont bien... c'est très bien de le découvrir par soi-même.
C'est bien de le découvrir par soi-même. Je sais que, par contre, le film, il n'est pas unanimement bien reçu, puis c'est en partie à cause de ça. Donc, on reprend justement cette star... Le personnage joué par Natalie Portman, on la ramasse comme lorsqu'elle est dans sa trentaine, au jour présent. Puis finalement, il y a tout un premier volet qui n'est pas tout à fait la moitié, mais je te dirais un gros tiers du film, là, facilement, qui est lorsque le personnage est interprété et est une adolescente, là, 13-14 ans. Elle est jouée par une jeune comédienne qui s'appelle Raffi Cassidy. On dirait que j'utilise beaucoup ces mots-là. En tout cas, toutes les fois que je parle d'un film au podcast, j'utilise ce mot-là, mais une révélation. Ouais. Je sais pas, là, mais je pense que ça saute aux yeux. En fait, ça saute tellement aux yeux que lorsque on franchit l'ellipse et qu'on arrive finalement dans le temps présent et que Natalie Portman joue la Céleste d'aujourd'hui, il y a un clash. Le clash, est-ce qu'il est voulu? Oui, il est voulu au niveau thématique. C'est un peu comme qu'est-ce qui corrompt, si on veut, une jeune star? Parce qu'on peut quand même révéler ça, là, tu sais, je veux dire, c'est une... Donc, dans la première portion du film, il y a un peu la genèse d'une carrière de jeune pop star qui, là, on la reprend aujourd'hui dans une carrière qui a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup de hauts et de bas, et puis là, on s'accroche avec une artiste qui... Ben, un peu une has-been, finalement, tu sais, qui essaye de se garder au goût du jour par toutes les façons possibles.
Ou du moins, tu sais, c'est que l'univers de la pop, c'est tellement superficiel et construit que les gens sont rapidement jetés aux poubelles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup cette interrogation-là sur l'art, puis
ben
sur...
Oui. Ben,
puis
et même l'entourage.
Aussi.
Et même l'entourage jeté au requin, carrément. C'est ça, là, la pop, tu sais, la pop manufacturée. Je veux dire, le personnage joué par Jude Law, c'est un manager, mais je veux dire, c'est un putain de requin. Mais encore là, c'est pas aussi unidimensionnel que ça. Même ce personnage-là, il est assez, assez franchement intéressant, je trouve. Mais disons que, en fait, moi, j'ai écouté le film, je l'ai visionné à la maison, là, parce que maintenant, il est disponible sur toutes les plateformes. Et pour quelconque raison, on l'a commencé tard, ma copine et moi, et on l'a pas fini, puis on avait vraiment hâte de le continuer. En fait, on l'a arrêté à la rupture de temporelle. Donc, on a peut-être écouté les premiers 45 minutes, et on a écouté l'heure et 10 suivantes le lendemain. Puis on avait vraiment hâte d'y replonger, parce qu'on était vraiment, encore une fois, hanté par l'atmosphère du film. Je trouve qu'il y avait un flair, Brady Corbett, pour façonner des images forte, peu importe ce que ça veut dire, pas juste belle, vraiment forte. Je pense notamment, il y a un plan avec la jeune là, sur un lit d'hôtel là, avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, tout ça, puis juste la façon comment ils sont cadrés, c'est tellement creepy, mais sans être appuyé que c'est creepy, qu'on dirait qu'il faut que ton cerveau comble ce gap-là que le film te donne pas. C'est comme si le film te laisse flotter dans un univers malsain sans jamais te conforter que c'est malsain, tu sais. Puis, fait que là, toi, ça te fait vraiment beaucoup ramer comme spectateur.
Et je trouve ça intéressant aussi que, tu sais, un genre d'esthétique pop aussi qui souvent se fait taxer d'être genre, ah, c'est du vidéoclip ou c'est de la pub. Et puis, il joue un peu là-dessus parce qu'il y a justement, à même le film, de la création de vidéoclips.
Ouais.
Et ça en fait quand même des images comme vraiment marquantes et...
Marquantes, c'est ça. C'est ça. C'est loin d'être un film parfait. C'est pas là où je m'en vais avec ça, mais c'est définitivement pas un film qui doit vous passer entre les doigts. Puis je sais aussi que le film, il y a eu deux grosses critiques. Bon, les critiques de certains éléments pivots narratifs là, qui prennent beaucoup de place dans le récit. Mais il y a aussi... tout le traitement de la musique pop, hein, parce que c'est comme toutes les chansons pop ont été créées par la Sia, en fait, la chanteuse Sia. Mm-hmm. Et le score, puis c'est pour ça que je voulais en parler précisément aujourd'hui, le score a été composé par Scott Walker, le légendaire Scott Walker, qui est décédé là, dans les dernières semaines à un âge vénérable, là, donc qui est là depuis les années 60, musicien... expérimental, je pense qu'on peut quasiment utiliser ce terme-là. Mais bon, donc je trouve que l'enrobage musical, moi j'ai été beaucoup attiré par ça, je trouvais ça curieux. T'sais, Natalie Portman en pop star avec la musique de Sia et le score de Scott Walker, moi juste ça c'était suffisant pour être vraiment alléché. Puis je m'attendais comme pas à aussi weird et aussi marquant et aussi prenant. Donc ça c'est tout en sa faveur. Puis je sais que le film a été taxé, t'sais, son traitement de la musique pop, surtout dans la dernière portion du film, c'est pas si léché que ça en fait, c'est vraiment décontenançant. T'sais, c'est un peu comme quand on regarde des clips YouTube de, tu sais, genre juste le micro isolé de Britney Spears ou genre juste le micro isolé de comme je sais pas quel popstar qu'on peut nommer. Puis tu sais, c'est que le film, c'est-à-dire, il est pas... C'est très confrontant de juste voir ça comme le côté rough, là, de l'espèce d'envers du décor, un peu trop rough, tu sais. Puis c'est là où ça en fait comme... C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disaient que c'était un peu un anti-Star is Born, puis je trouve que c'est en grosse partie pour ça, peut-être. T'sais, là où les performances live dans A Star is Born, t'sais, sonnent comme un vidéoclip. Puis genre, dans Vox Lux, c'est tellement l'inverse. Je sais pas, on dirait que ça m'a fait du bien que ce soit un peu trashy, genre. Ça fait du sens. J'ai aimé qu'il y ait du trash dans le glitz, tu sais, dans le glamour de ce monde-là. Puis vraiment, c'est ça, là, c'est un monde de requins. Puis genre, qu'est-ce que tu fais quand t'as une ado croyante qui se rentre dans cette espèce de machine-là? Juste ça, là, cette espèce de discours-là, là, c'est un cautionary tale vraiment fascinant puis vraiment contemporain. Donc, j'ai mes bémols, mais je voulais vraiment en parler parce que putain, c'est une grosse proposition ce film-là.
Mais
je vous conseille vraiment.
Y a-tu des parallèles avec Black Swan? Parce que ce que tu viens de dire comme synopsis, t'aurais pu remplacer musique pop par ballet. Puis j'aurais pensé que tu parles de Black Swan.
Ouais,
sans le Natalie Portman, puis l'imagerie qu'ils ont mis de l'avant dans les trailers, puis dans les...
Oui.
C'est comme un parallèle.
Ouais, mais ça n'a pas le petit côté fantastique, horreur. Ça va pas complètement là-dedans non plus. Puis non, mais c'est vraiment une mise en scène très différente. Là. Je trouve que c'est quand même des pommes et des oranges au niveau de comme le choix d'esthétique, le choix de cadrage. Non, c'est assez unique. Là. Je pense pas que ça va vous... sauter aux yeux comme comparaison. Mais vraiment, encore une fois, je voulais juste finir sur le fait que Rafi Cassidy, elle est tellement bonne qu'en fait, ça m'a fait questionner Natalie Portman, en fait. Carrément.
Ben, mais écoute, moi c'est un de mes bémols avec le film, en fait, c'est que j'ai... Bon, par la nature même du film, puis la manière qu'il est découpé, on en vient à forcément comme comparer un peu les deux parties, ou du moins à réfléchir à ça, puis toi encore plus, vu que tu l'as vu comme en deux segments, comme deux épisodes un peu. Puis j'avoue que autant j'ai trouvé que la première partie était excellente, puis j'avais tellement hâte de voir où ça s'en allait. Je trouve que la conclusion est pas aussi forte, puis c'est quand même le danger souvent de faire des ellipses 20 ans plus tard ou des trucs comme ça. Ça me rappelait un peu aussi le film là, de Derek and France avec Ryan Gosling là, en trois époques.
Lui.
The Place Beyond the Pines.
C'est vrai, ça existe, ça.
Puis ça, c'est un film aussi que j'avais trouvé que le début était très prometteur. Puis, tu sais, des fois, c'est mieux de pas avoir l'épilogue. Tu sais, des fois, c'est mieux de juste comme laisser ça. Et même au sein de la deuxième partie, tout le... Bon, c'est un film musical, puis il y a comme une espèce de... On va dire ça pour rester vague, mais il y a un spectacle dans le film, là, tu sais.
C'est dans la bande-annonce, c'est la promo. Ouais, c'est ça, la promo du film est autour de ça, là, donc...
Ouais, c'est ça. Et c'est, le film se dirige vers là, puis effectivement, c'est comme un peu dur à saisir, le propos du film, puis son point de vue, puis c'est comme pas... Je trouve que c'est pas assez trash pour être... vraiment une critique, c'est pas assez glamour pour être tout à fait genre comme une célébratoire. Tu sais, il y a quelque chose d'assez étrange, ce qui est pas nécessairement mauvais, mais j'avoue que ça répond peut-être pas à toutes les promesses que le début laissait présager. L'autre truc selon moi qui me titillait un peu, c'est que j'ai l'impression que Brady Corbet était un peu trop en amour avec Natalie Portman, puis un peu trop content de l'avoir, de pouvoir la diriger. Il y a comme beaucoup de scènes avec elle qui s'éternisent, et j'ai l'impression qu'il est juste comme content de pouvoir faire une scène de, tu sais, de, je sais pas, d'une discussion avec son gérant dans sa cabine pendant 10 minutes.
Lui pensait vraiment qu'il lui... c'est ça, il pensait vraiment qu'il lui donnait un rôle à Oscar, là, puis peut-être que ça paraît. Puis étrangement, tu sais que Natalie Portman n'était même pas le premier choix, hein. Il voulait initialement le faire avec Rooney Mara, le film. Quand même, c'est quand même intéressant. Puis Rooney Mara, apparemment qu'elle était même confirmée à un certain point, puis après ça, le film a pris plus de temps à être produit, puis elle n'a pas pu le faire. Et finalement, Natalie Portman n'était pas nécessairement le choix numéro un, étrangement.
Pas qu'elle fait... C'est pas Natalie Portman le problème, c'est pas qu'elle a un mauvais jeu, mais son personnage est écrit d'une façon... C'est même pas son personnage, en fait. C'est vraiment, pour moi, le découpage puis le rythme qui fait que... Là où la première partie, je trouvais comme avancée de manière très logique, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme des temps morts dans la seconde partie. Puis ça vient un peu contrecarrer l'espèce d'énergie que son personnage produit. Peut-être ça peut être un commentaire aussi. Toutes les critiques que en ce moment que je soulève peuvent être intellectuellement annulées, si on veut. Là. Mais ça reste que pour moi, c'est pas la réussite totale que j'aurais souhaité. Mais ça reste à voir. Là. C'est vraiment comme un film super intéressant. Puis là, bientôt, on va avoir droit aussi, j'espère, un jour, à Earthsmell de Alex Ross Perry, qui est un peu, bon, c'est un peu dans le même thème. Cette fois-ci avec son actrice Elisabeth Moss, qui joue encore une fois une espèce de rockstar.
Névrosée.
Fait que j'ai hâte de voir. Puis tu sais, j'ai hâte de faire une espèce de double feature entre ça et Vox Lux. Ça doit sûrement être très pertinent. Donc, ouais, Vox Lux de Bradley Corbett, mais tu sais, pour un deuxième film, pour vrai, c'est vraiment super intéressant, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va
voix,
faire.
Il y a une vraie voix, je trouve. Comme c'est pas... Je veux pas être pas pour être péjoratif, mais tu sais, ça file pas comme un film d'acteur là, recyclé. Là.
Oh non, tout à fait.
Il y en a plein là, des bons films faits par des acteurs. Là. C'est pas un commentaire large que je fais, mais c'est comme. Il y a vraiment un côté joueur avec tous les éléments du langage cinématographique qui sont mis de l'avant.
C'est pas opportuniste du tout. Là, non, il y a vraiment un message, puis il y a vraiment comme une volonté de faire du cinéma.
Absolument.
C'est un peu prétentieux quand même. C'est un petit peu. Puis pourtant, depuis tantôt, je louange des trucs comme Genèse ou comme d'autres films. Là. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un petit peu trop. Là.
Ah, je sais pas, moi j'aimais ça. Puis tu sais, juste pour finir avec le ton du film, c'est que moi j'aime ça, cette nuance-là. T'sais, c'est-à-dire. Tu sais, un film qui fait juste critiquer ou prendre un parti, des fois, ben, tu sais, je veux dire, vous parlez à quelqu'un qui a fait un film puis que j'ai voulu aimer les concours de beauté pour enfants. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime, pour citer mon propre film, là, c'est la première fois que je fais ça ever au podcast, là, d'ailleurs. Alors, 190 podcasts, là, donnez-moi une chance. Mais mon point, c'est que j'aime ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait un film qui critique le monde de la pop, mais qui en même temps, tu sais, ce que toi tu disais, ouais, mais en même temps, il aime certaines affaires, certains éléments. Moi, je trouve que c'est ça qui en fait une œuvre valable, là, d'une certaine façon. C'est précisément le fait qu'on sait pas exactement c'est quoi son point de vue. Puis c'est ça qui fait que toi, en tant que spectateur, t'es un peu nerveux, tu sais pas. C'est ça, tu sais, c'est pour ça que ça nous hante, c'est pour ça que ça nous reste. C'est comme, mon Dieu, il m'a pas donné ce que je m'attends à ce qu'il me donne. T'sais, si tu me donnes une critique, pourquoi tu y vas pas autant à fond? Puis. Fait que ça te fait travailler, mais c'est le fun de faire travailler un spectateur. Puis moi, j'ai eu du fun à travailler avec ce film-là. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui au podcast Vox Lux, que j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Tout à fait. Puis je te rejoins pour la révélation de l'actrice. Là. J'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire dans le futur.
Vraiment, vraiment.
Donc voilà, c'était déjà notre point de vue de la semaine, du mois, devrais-je dire. D'ici là, il y a notamment Cours d'un soir, mais également Longue vue sur le cours à la fin avril. Je pense qu'on va enregistrer un podcast dans ces eaux-là.
Et d'ici là, Paul part en lune de miel en Russie quand même, on peut le mentionner.
Ben là!
Ouais, je vais essayer de voir un cinéma en Russie, qu'est-ce que ça a de l'air.
C'est clair, il voyage puis ça va dans des cinémas.
Profite de ta femme, là.
Non, mais au moins, vous faites jamais ça, genre,
tellement.
Un peu comprendre c'est quoi la culture là-bas. Est-ce que les gens parlent pendant les films? Est-ce qu'il y a Poutine qui vient de vérifier ton billet? Donc, voilà. Alors, c'était notre point de vue. On va se quitter sur la bande-annonce du récipiendaire du meilleur film au RVQC, Mad Dog Labine.
Oh yeah!
Qui prend l'affiche très bientôt de Jonathan Beaulieu-Sire et Renaud Lessard dans une semaine.
Ouais.
Alors, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Puis toi, tu veux-tu rester dans le Pontiac toute ta vie?
Une fois que je finis ma job, puis je retraite, je m'en viens ici, m'en vais au camp, puis à chalet m'a pu. Mais me dire une affaire pourquoi que j'aime le Pontiac. C'est calme ici.
On est toujours content. Nous autres, on s'en fout.
10 000 piastres, ça fait 5 000 chaque.
Moi, j'arrête de m'en
aller. Un skidoo, un skidoo, un cateau, un side-by-side. Ah, oh, des voyages autour du monde. Ah, oh, je m'achète des fleurs puis je m'épiche.
Nous autres, on s'en fout. La critique
Mad Dog a sonné.
Ça, c'est tout ce que je sais sur Pontiac, fait que je te laisse avec cette information-là. Fais ce que tu veux avec. Moi, je m'en fous complètement.